affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Au XVIIe siècle, peu de femmes connurent la gloire par les arts. Ce fut pourtant le destin de Catherine Duchemin. Le château de Versailles vient d'acquérir un portrait de cette figure oubliée. Elle mena une brillante carrière qui la conduisit jusqu'à l'Académie de peinture et de sculpture, une première en son genre. Nous sommes donc en compagnie d'Élodie Vesse, conservateur du patrimoine au château de Versailles, chargée des peintures du XVIIe siècle et en particulier des portraits. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette figure de Catherine Duchemin, dont le nom aujourd'hui ne nous évoque pas grand-chose? Qui était-elle?
Alors Catherine Duchemin, c'est un peintre, c'est une peintre, une femme peintre. C'est une Parisienne qui a été baptisée le 12 novembre 1630 en l'église Saint-Jacques-la-Boucherie à Paris, une église dont reste aujourd'hui la tour Saint-Jacques. C'est quelqu'un qui va passer toute sa vie en fait dans ce quartier autour du Louvre, autour de la tour Saint-Jacques, de l'église Saint-Eustache, de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle est spécialiste de peintre de fleurs et c'est la fille d'un maître peintre qui s'appelait Jacques Duchemin et de son épouse qui s'appelait Marie Hubeau. Et elle doit son prénom à sa marraine, qui s'appelait Catherine, elle aussi, Catherine Cérizier, qui était une fille de marchand. Et en fait, donc, c'est quelqu'un qui va s'adonner à la peinture, sans doute grâce à l'influence de son père, et qui va donc laisser une œuvre malheureusement assez méconnue aujourd'hui, mais en tout cas qui est passée à la postérité grâce à sa qualité de première femme académicienne, puisqu'elle a été reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1663.
C'est donc une belle consécration. La peinture était un vrai métier. Quelle était sa clientèle? Qui étaient ses commanditaires?
Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'on conserve très très peu, pour ne pas dire pas, de tableaux de Catherine Duchemin. Il faut savoir que la peinture de fleurs, c'est vraiment quelque chose qui est absolument redoutable à attribuer, donc c'est très difficile pour les historiens de l'art, et c'est quelqu'un qui visiblement ne signait pas ses tableaux. Donc on sait qu'elle a eu une clientèle, elle a travaillé au moins 10 ans, donc entre la fin de sa formation et son mariage. Elle a sans doute une clientèle qui est à peu près équivalente à celle des peintres hommes, en tout cas c'est ce qu'on remarque pour les autres peintres femmes dont on connaît assez bien le milieu et la clientèle. Les rares tableaux aujourd'hui qui lui sont attribués, a priori, ont plutôt été retirés, ont été donnés à d'autres. Et finalement, peut-être que le seul exemple dont on peut être à peu près certain de son art, c'est le bouquet de fleurs qui se trouve donc sur le tableau que vient d'acquérir le château de Versailles, puisque donc le modèle est représenté en train de peindre des fleurs, et on a l'impression que ce bouquet donc est peint par-dessus la peinture. On le voit très nettement sur une des fleurs qui passe sur le chevalet, et c'est très clairement l'œuvre d'un spécialiste, hein. C'est-à-dire que la personne qui a peint ces fleurs, visiblement, avait pour métier de peindre ces fleurs, et donc il est très tentant de penser que sur ce portrait, son portrait, Catherine Duchemin a elle-même peint les fleurs qu'elle peint aussi sur le tableau.
Dans le monde de la peinture, au XVIIe siècle, il y a différents genres. Ce genre de la peinture de fleurs, quelle est sa place par rapport aux autres? Est-ce un genre mineur?
Alors, c'est un genre qui va effectivement être considéré comme mineur, mais peut-être pas vraiment à l'époque où travaille Catherine Duchemin. C'est-à-dire que Catherine Duchemin, il faut bien comprendre qu'on est au tout début de l'histoire de la peinture du XVIIe, c'est quelqu'un qui naît en 1630, qui a priori donc travaille à peu près jusqu'à son mariage, voire un peu après, donc 1657-1660. C'est une époque où la hiérarchie des genres n'a pas été théorisée. C'est-à-dire que la théorie répandue par l'Académie royale de peinture et de sculpture, selon laquelle tous les genres ne se valent pas, et donc au sommet trône la peinture d'histoire, la peinture qui raconte une histoire, et assez loin en bas de l'échelle se trouve la nature morte et la peinture de fleurs, n'est pas encore répandue. Donc Catherine Duchemin, elle va choisir la peinture de fleurs, mais sans doute pas parce que c'est un genre mineur, parce que En fait, son père lui-même donc, est peintre, comme je vous l'ai dit, et son père, d'après ce qu'on sait, peint plutôt, il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un peintre décorateur. C'est-à-dire qu'il va travailler dans des chantiers, des hôtels particuliers parisiens, des châteaux en région, sur lesquels il va peindre non pas des figures humaines, s'entend, mais plutôt justement voilà, des paysages, des paniers de fleurs, des paniers de fruits, etc. Et donc, comme elle a très vraisemblablement été formée par son père, c'est sans doute dans cette filiation qu'elle s'est dirigée vers la peinture de fleurs. Les femmes, effectivement, à l'époque font davantage de nature morte, sans doute parce qu'elles n'ont pas accès aux lieux d'enseignement. Donc effectivement, elles ne peuvent pas représenter le nu, donc c'est plus compliqué pour elles de peindre la figure humaine. Il va quand même y avoir des exceptions. Mais donc c'est sans doute la raison pour laquelle Catherine Duchemin va choisir les fleurs. Pas du tout parce que c'est un genre mineur, simplement parce que son milieu l'y pousse, parce que sa formation l'y pousse, et peut-être aussi parce que son goût l'y poussait.
Et quelle est la destination de ce type de tableau ?
Alors, on pourrait penser que ce sont des tableaux qui répondent à la demande, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les commander et que justement c'est plus facile pour elle parce que voilà, elle les peint et elle les vend directement, si vous voulez. Mais c'est une idée qui est un peu contredite par les sources. Hein. Quand on regarde les sources des inventaires après décès des Parisiens, puisque donc Catherine Duchemin, je vous l'ai dit, est parisienne et très parisienne, quand on regarde donc les sources pour la fin du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas tellement de nature morte dans les intérieurs. Il y en a dans les décors, mais les gens qui vont commander un tableau de chevalet, c'est-à-dire donc un tableau sur toile ou sur bois, pour représenter donc une nature morte, c'est plutôt des amateurs un peu éclairés. Donc clairement, il y a quand même une clientèle et c'est un marché qui répond sans doute plus à la commande que ce à quoi on pourrait penser.
Alors cette femme arrive un jour à l'Académie de peinture. Est-ce qu'on sait comment s'est passée son élection ?
Alors, donc elle a été reçue effectivement en 1663 à l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est quelque chose qu'elle doit sans doute donc à ses réseaux. En fait, Catherine Duchemin, c'est quelqu'un qui est à l'intersection de deux réseaux assez puissants. Le réseau de son père, donc Jacques Duchemin, comme je l'ai dit, son père a été un membre assez important de la maîtrise parisienne. La maîtrise parisienne, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la corporation, en fait. Donc, il l'a dirigée même à une époque. Donc, grâce à lui, la famille était en contact avec des peintres qui sont aujourd'hui tout à fait connu. Charles Erard va signer son contrat de mariage, Laurent de la Hire, Jacques Linard, qui est un autre grand peintre de nature morte. Donc elle est à la jonction de cette institution qui est un peu en perte de vitesse, et puis d'une institution qui elle, a le vent en poupe et qui connaît à ce moment-là ses années les plus glorieuses, qui est donc l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et si elle appartient aussi à ce deuxième milieu, c'est parce qu'elle a épousé un jeune homme qui venait tout juste de devenir académicien, qui... visiblement lui était très attaché, qui lui a fait élever un tombeau absolument magnifique à sa mort. Et cet homme, c'est François Girardon, le sculpteur. Et donc... par Girardon, elle est liée donc à tout ce milieu de la jeune académie qui a été fondée en 1648, qui a connu des années assez difficiles et qui à ce moment-là est en train d'être reprise en main, notamment sous la houlette de Charles Lebrun, qu'on ne présente plus. Et donc le roi, au tout début de l'année 1663, décide que seuls les académiciens pourront se dire peintres du roi. Et donc c'est un moment où il y a vraiment un afflux de candidatures, la procédure pour être reçue à l'académie est en train de se fixer. Et donc c'est aussi le moment où Catherine Duchemin donc finalement arrive à l'académie. Donc, comment les choses se sont passées très concrètement ? On peut en avoir donc une idée grâce aux délibérations de l'Académie. Donc, comme je vous le disais, c'est une institution qui est en train de se solidifier, mais qui est encore donc en construction. Donc, les règles existent, mais elles peuvent encore être contournées assez aisément. D'ailleurs, au XVIIe siècle, la règle se contourne souvent et aisément. Et donc, normalement, pour devenir académicien, il faut se présenter avec des œuvres qu'on vient de réaliser, et les autres académiciens les examinent, et si elles leur plaisent, ils vous donnent ce qu'on appelle l'agrément, et ils vous commandent un ou deux morceaux de réception, donc des chefs-d'œuvre, hein, en quelque sorte, qui sont donc des tableaux ou des sculptures qui doivent être le meilleur de l'art de l'impétrant. L'impétrant donc rend ses chefs-d'œuvre, ses morceaux de réception quelques mois ou quelques années plus tard, et à ce moment-là, il est reçu académicien, il peut participer au débat, il peut voter, il doit payer ses contributions, et éventuellement, il peut enseigner. Pour Catherine Duchemin...
Ça, c'est normalement.
Ça, c'est la procédure normale. Pour Catherine Duchemin, les choses vont se passer un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se présenter elle-même. C'est Charles Lebrun qui va venir avec un tableau qu'elle a peint. Donc ce tableau, on sait que c'était donc un panier de fleurs sur un piédestal. C'était une œuvre assez grande, visiblement, qui faisait à peu près donc 1m32 sur 97 cm. Donc pour une nature morte, c'est quand même assez considérable. On n'en connaît pas beaucoup de cette taille-là. Et donc, Charles Lebrun va présenter ce tableau aux académiciens qui, connaissant donc le mérite de Catherine Duchemin, vont l'admettre directement, sans lui commander un tableau supplémentaire, sans qu'elle se présente. Et donc, elle va être reconnue comme étant académicienne. Mais finalement, elle ne va jamais participer aux expositions. D'autres femmes académiciennes vont le faire, mais pas elle. Elle ne va, semble-t-il, jamais venir elle-même à l'académie. Elle ne va évidemment jamais participer au débat. Elle ne va jamais enseigner. Donc, si vous voulez, c'est une première, mais c'est une première qui reste quand même un peu limitée. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout à fait l'académie comme pour les hommes. Enfin, le symbole est là. Le précédent est créé. Il va être un peu difficile après de revenir dessus, même si on va voir, il va y avoir des allers-retours de ce sujet. Donc, elle est reçue et les archives de l'époque, donc les comptes rendus de l'époque, ont une formule assez jolie. Ils considèrent que voilà, il est du devoir et de l'honneur de l'académie, en suivant l'intention du roi qui est d'épandre sa grâce sur tout ce qui excelle dans les arts de peinture et de sculpture, de faire entrer tous ceux qui seront jugés dignes sans avoir égard à la différence des sexes. Donc voilà, je cite. Donc le précédent est créé et le message qui est que l'Académie est ouverte à tous, en tout cas dans ces années 1660, grâce à Catherine Duchemin, est lancé.
Il y en aura donc d'autres des femmes admises à l'Académie. À quel rythme et puis quels sont leurs profils ?
Alors, il va effectivement y avoir d'autres femmes reçues à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Catherine Duchemin va rester toute seule, entre guillemets, jusqu'en 1669. Et en 1669 vont être reçues deux sœurs qui ont un profil qui est assez proche du sien finalement, qui sont Madeleine et Geneviève de Boulogne. Donc comme Catherine Duchemin, elles sont filles de peintres, leur père, donc Louis Ier de Boulogne, est lui aussi académicien, il présente les œuvres de ses filles. Et donc, elles vont être reçues, elles aussi, en leur absence, mais elles vont avoir une carrière qui est un peu plus développée que celle de Catherine Duchemin, puisque elles vont pouvoir exposer. Donc, elles exposent des tableaux très régulièrement au salon, qui sont les grandes expositions organisées par l'Académie. Et puis, elles vont avoir accès aux chantiers royaux, ce qui n'est pas le cas de Catherine Duchemin. Donc, les chantiers royaux les plus prestigieux de l'époque, bien évidemment, ce sont les résidences de Louis XIV. Et on conserve donc un certain nombre de tableaux, certains de Madeleine de Boulogne, notamment au château de Versailles, puisqu'elle va se voir confier les tableaux qui sont en dessus de porte du grand couvert de la reine. Donc, les œuvres sont toujours en place aujourd'hui. Elles sont au château. C'est des natures mortes plutôt à thématique guerrière, puisqu'en fait cette pièce est le salon de Mars de la reine. Et puis elle va également recevoir la commande des tableaux qui étaient en dessus de porte dans le salon des nobles, qui sont donc des œuvres toujours conservées, elles aussi aujourd'hui, mais qui ont été retirées sous Marie-Antoinette et qui sont aujourd'hui au château de Rambouillet. Donc finalement, ce précédent va avoir une continuation, toujours avec des peintres de nature morte. On remarque quand même que les sœurs Boulogne ont deux frères, Bon et Louis II, et que Bon et Louis II, qui sont un peu plus jeunes, vont eux aussi rentrer dans le giron de l'Académie, mais à eux, on va proposer de partir en Italie, donc ils vont pouvoir aller se former à Rome, ce qui sera évidemment jamais le cas de leurs sœurs, et puis donc ils vont être reçus, ils vont eux aussi travailler sur des chantiers royaux, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec celles de Madeleine, et effectivement, voilà, ils travaillent aux Invalides, ils travaillent à Versailles, ils travaillent à Trianon, on conserve beaucoup plus de tableaux de Bon et de Louis II de Boulogne, qui sont d'excellents peintre par ailleurs. Mais donc voilà, les opportunités sont quand même pas tout à fait les mêmes. À l'Académie, il y a aussi donc des miniaturistes, donc notamment Anne-Renée Strésor ou une autre Catherine qui s'appelle Catherine Perrault. Et puis il va y avoir un peu plus tard, en 1672, une artiste qui sait tout faire, qui est Elisabeth Sophie Chéron, qui est une personnalité vraiment passionnante sur laquelle on espère qu'il y aura bientôt des publications, qui est quelqu'un qui fait du portrait, qui fait de la peinture d'histoire, qui est aussi poétesse, qui est polyglotte, enfin vraiment une femme assez brillante, qui sort un peu donc des genres auxquels c'était limité ses prédécesseurs. Et donc, qui va elle aussi faire une carrière d'académicienne. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que toutes ces femmes dont je vous parle sont plus jeunes que Catherine Duchemin. Catherine Duchemin, elle est née en 1630. Donc finalement, avant elle, il y a de rares précédents, qui sont donc notamment la fameuse Louise Moyon, et puis un peu avant Marguerite Bahuche, qui était la femme de Jacob Bunel au tout début du XVIIe. Mais finalement, voilà, toutes ces femmes dont nous parlons maintenant, ce sont des femmes qui ont une dizaine, voire une quinzaine d'années de moins que Catherine Duchemin. Donc la situation évolue, et donc c'est pour ça qu'elle est quelque part un précurseur.
Et par la suite, est-ce que la situation va se raidir et offrir finalement moins de possibilités aux femmes, je pense au XVIIIe siècle notamment ?
Alors, la situation va effectivement se raidir, hein, peut-être parce que finalement, plus les institutions s'affermissent, plus les règles sont strictes, et dans ces cas-là, plus il est difficile de les contourner. Et en 1706, l'Académie royale va décider fermer sa porte aux femmes, ce qui est une décision qu'on comprend partiellement en lisant les comptes rendus de l'époque. En fait, ils expliquent à l'époque que donc il y a plusieurs femmes qui vont se présenter pour être académiciennes et que pour cette raison, il va falloir leur fermer la porte en fait. Donc c'est un peu étrange. Est-ce que justement voilà cette institution qui s'est anoblie décide que finalement les femmes n'ont pas leur place dans ce milieu? Est-ce que c'est un moment où la peinture, où le marché de la peinture est un peu plus tendu à Paris, c'est-à-dire qu'il y a une forte offre et une demande un peu moins importante, donc est-ce qu'ils ont peur de la concurrence? C'est un peu étrange. Mais en tout cas, à partir de 1706, officiellement, l'Académie n'admet plus de femmes. Dans les faits, il va quand même y en avoir, notamment des étrangères qui vont être admises. Je pense à la pastelliste vénitienne Rosalba Carriera, qui va être admise au 18e. Mais il va falloir attendre 1770 pour que les femmes reviennent, sous une légère pression royale d'ailleurs. Et en 1770, ils vont décider de limiter leur nombre à 4. Donc à cette époque-là, il y a une centaine d'académiciens quand même. Donc voilà, 4 femmes, c'est vraiment très peu. Et c'est le moment où vont rentrer donc les fameuses Adélaïde Labille-Guyard et Elisabeth Vigier-Lebrun, qu'on ne présente plus. Mais l'Académie n'est pas le seul endroit où on peut faire de la peinture à Paris. Et il y a une autre institution qui, elle, en revanche, va rester ouverte aux femmes, et même assez largement ouverte aux femmes. Et ça, c'est des recherches récentes qui l'ont montré, les recherches d'un docteur qui s'appelle Bruno Guillois. Et en fait, cette Académie, c'est la maîtrise, c'est la corporation. C'est l'institution à laquelle appartenait le père de Catherine Duchemin. Et à partir de 1699, finalement, profitant peut-être des réticences de l'Académie, la maîtrise, elle, va s'ouvrir aux femmes, accueillir ce que les textes appellent des maîtresses peintresses, et elles vont représenter quand même au 18e jusqu'à 10% du total des maîtres peintres de cette institution. Donc les femmes peuvent aller à cet endroit-là. Semble-t-il, il y a un certain nombre d'éventaillistes parmi elles, mais pas seulement. Et pour l'institution, c'est un facteur de stabilité. Et donc il reste au 18e cette opportunité pour les femmes peintres à Paris.
Est-ce qu'elles ont des carrières particulières ?
Là encore, c'est difficile de répondre à ces questions, et on attend vraiment la publication de la thèse de Bruno Guillois. C'est sûr que voilà, ce sont des carrières particulières, des carrières limitées. Pour en revenir à Catherine Duchemin, ce qui est tout à fait intéressant avec elle, par exemple, c'est que voilà, c'est quelqu'un dont on peut dire que la carrière a été limitée, puisque dès 1700, donc 2 ans après sa mort, un de ses biographes, donc qui est Florent Lecomte, dit qu'elle a abandonné la peinture pour s'occuper de ses enfants. Et donc elle va passer à la postérité pour ça, parce qu'on dit... Voilà, Catherine Duchemin, c'était une excellente peintre de fleurs. Florent Lecomte dit aussi que voilà, ces fleurs étaient si belles que, à part à l'odeur, on ne pouvait pas savoir que c'était des fleurs peintes et pas de vraies fleurs. Mais Catherine Duchemin va arrêter sa carrière, et donc au 19e, par exemple, il y a des publications très très intéressantes où on imagine Girardon et Catherine Duchemin dans leur intérieur, et on dit voilà, Catherine Duchemin a immédiatement sacrifié sa carrière pour élever ses enfants. Et quand on observe les faits, on remarque donc que Catherine Duchemin s'est mariée à 27 ans, ce qui est un âge moyen pour se marier à l'époque, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, se marier à 12 ou 13 ans, c'est vraiment quelque chose qui est réservé à la haute noblesse, aux familles royales, mais à Paris, les femmes se marient plutôt donc aux alentours de 25-30 ans. Et donc Catherine Duchemin, elle se marie à 27 ans, donc on peut imaginer quand même qu'elle a fait au moins 10 ans de carrière avant. Elle va avoir immédiatement donc 4 enfants, en fait. Elle va avoir 4 enfants en moins de 4 ans. Et puis, entre 1661 et 1664, là, il y a une petite pause, elle n'a pas d'enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle est reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, on peut se demander si c'est vraiment quelqu'un qui, dès qu'elle s'est mariée, s'est dit qu'elle allait abandonner sa carrière. Et si ça avait été le cas, elle se serait sans doute pas donné la peine d'être reçue. Donc, visiblement, quand même, il y a un moment où elle a recommencé à peindre. Et puis ensuite, donc, à partir de 64, là, elle a à nouveau des enfants, elle va en avoir 10 en tout, un intervalle un peu moins régulier, mais enfin, elle va quand même avoir à nouveau un certain nombre de grossesses, ce qui doit la limiter pour travailler, parce que forcément, voilà, la peinture, c'est un métier physique. Et puis, donc, Girardon, lui, fait une carrière de plus en plus brillante. Il va s'installer donc aux Galeries du Louvre en 1667, avec toute sa famille. Et donc, voilà, sa carrière, elle, à ce moment-là, est un peu, voilà, est très clairement mise entre parenthèses. Mais est-ce que dès le moment où elle s'est mariée, elle s'est dit qu'elle allait arrêter de peindre? En tout cas, les faits le démentent quelque peu.
Est-ce qu'on a des traces des échanges qu'ils auraient pu avoir d'un point de vue artistique, tous les deux? Parce que c'est quand même un couple assez extraordinaire.
Non, on a très peu de choses. Malheureusement, on n'a pas d'inventaire après décès pour Catherine Duchemin. On a un inventaire qui a été réalisé un peu avant la mort de Girardon, qui est mort donc très vieux et qui était visiblement un peu sénile. Donc on a une idée de ce à quoi ressemblait leur logement aux Galeries du Louvre, donc tout près d'ici. On sait donc la maison comportait un certain nombre d'œuvres de Charles Lebrun, qui avait donc des grands dessins de Charles Lebrun, qui avait donc, dit-on, deux portraits de Catherine Duchemin et de son époux par Lebrun, en tout cas c'est ce que nous disent les sources de l'époque. On sait aussi donc qu'il y avait deux tableaux, une Assomption et puis un sujet de métamorphose, mais voilà, savoir à quel point ils ont pu échanger échanger leurs pratiques artistiques, donc pour l'instant on n'a pas de témoignage à ce sujet, on le trouvera peut-être.
Nous arrivons à ce fameux portrait qui nous donne l'occasion de parler de Catherine Duchemin. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, parce que nos auditeurs ne peuvent pas le voir? Et puis voilà, nous dire à quoi il ressemble et ce qu'on peut y voir.
Alors c'est un grand tableau. Il faut bien comprendre que le portrait au XVIIe siècle, plus c'est grand, plus c'est cher. Et là on est donc sur un portrait de femme au travail qui mesure donc à peu près 1m30 sur 97 cm, c'est un format standard à l'époque. C'est une œuvre vraiment de grande dimension, c'est un portrait ambitieux hein, pour l'époque, soyons tout à fait clairs. Donc Catherine Duchemin est représentée au travail, elle est devant son chevalet, elle tient sa palette, elle est en train de tremper son pinceau dans de la couleur, et elle s'apprête donc à peindre un bouquet de fleurs, donc des anémones doubles et des pavots, donc qui sont représentés eux aussi. Et au lieu de regarder son travail, elle nous regarde nous, et elle a une expression vraiment toute particulière elle soutient le regard du spectateur avec un côté à la fois très fier et très doux, enfin vraiment c'est une expression magnifique et j'invite vraiment les auditeurs à venir voir ce tableau quand il sera exposé au château. Donc finalement, il y a quelque chose sur cette œuvre. Donc elle porte une très belle robe avec donc un grand drapé jaune qui est jeté sur ses genoux un peu à la manière d'un tablier. Et puis donc un très très beau corsage blanc sur lequel jouent donc des rubans noirs. Et en fait finalement, il y a une espèce de tranquille assurance hein, sur ce tableau qui est très 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 impressionnante. Voilà, elle regarde le spectateur, elle le soutient, elle travaille. Et quand on le compare avec les autres portraits d'artistes, on a donc une collection de portraits d'artistes tout à fait remarquable à Versailles. C'est vrai que voilà, elle se distingue de ce point de vue-là parce que voilà, elle nous regarde, elle travaille et voilà, il y a vraiment quelque chose de très particulier qui passe dans cette effigie.
Alors, ce portrait vient d'entrer dans les collections du château de Versailles. Comment l'avez-vous découvert et quelle est l'histoire qui se cache derrière ?
Oh, c'est un tableau qui passait en vente publique, donc ça fait partie vraiment du métier de conservateur, de surveiller les œuvres qui passent en vente publique et qui sont aussi d'ailleurs à Paris, sur les salons, chez les antiquaires, enfin c'est une partie du métier. À Versailles, on conserve une collection très importante de portraits d'académiciens. Je vous ai dit que pour être reçu à l'Académie, il fallait livrer donc un ou deux morceaux de réception, donc des chefs-d'œuvre en quelque sorte. Donc pour les portraitistes, parce que le portrait est aussi considéré comme un genre inférieur, à ce moment-là c'est vrai, pour les portraitistes, il faut livrer non pas un, mais deux tableaux pour faire davantage ses preuves. Et ces tableaux donc, ont été donc collectionnés à l'Académie. Ils étaient vraiment... Il y en avait une bonne centaine. Et à partir de 1797, après avoir été rassemblés au Louvre à la Révolution, ils ont été envoyés à Versailles. Donc nous avons dans les collections du château, depuis 1797, un nombre très important de portraits d'académiciens, donc des morceaux que ces artistes ont peints pour être reçus. Ils se sont peints entre eux, en fait, en quelque sorte. Et nous avons aussi donc, des œuvres qui ont été léguées à l'Académie, qui sont arrivées à Versailles. Et puis donc, c'est un fonds qui a été complété par des achats de Louis-Philippe notamment. Donc nous avons aujourd'hui un ensemble qui est vraiment cohérent, complet et assez unique de portraits d'artistes du XVIIe siècle. Il faut bien comprendre que voilà, quand on visite les salles, comme évidemment on expose ces trésors, on peut avoir l'impression que le portrait d'artiste au XVIIe c'est très courant. Non, par rapport au total des portraits, c'est vraiment très marginal, on est à 1 ou 2% du total. Donc nous avons, grâce à l'Académie et grâce à ces transferts donc, qui ont eu lieu dès la fin du XVIIIe siècle, cette collection de portraits d'académiciens que nous exposons. On en profite pour expliquer aux visiteurs ce qu'était l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et donc, bien évidemment, le portrait de la première femme académicienne, on ne pouvait pas passer à côté. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons décidé de préempter le portrait de Catherine Duchemin, qui va être exposé donc, au sein de cet ensemble. On voit déjà le mur sur lequel on va le mettre. Et on espère vraiment que voilà, cette femme, au milieu de tous ces hommes, puisque tous les autres académiciens sont des hommes, va permettre donc, aux visiteurs de s'intéresser davantage à l'histoire de l'académie, de mieux rentrer voilà, dans cette aventure qui est voilà, une aventure artistique, une aventure intellectuelle. Ces artistes, c'est vraiment ceux qui travaillent ensuite sur les grands chantiers royaux, c'est ceux qui construisent le château de Versailles, hein, pour être tout à fait clair. Donc on espère vraiment que voilà, la présence de Catherine Duchemin va aider les visiteurs à mieux appréhender cette histoire, d'autant que les salles donc, dans lesquelles sont exposés ces portraits sont juste avant les grands appartements, juste avant la Galerie des Glaces, donc tous nos visiteurs passent là, et quelque part, voilà, c'est une introduction à ce qu'a été le XVIIe français, et à ce que va être la visite du château de Versailles.
Alors, avant l'accrochage, c'est le temps de la restauration et des recherches. Qu'est-ce que vous cherchez à établir actuellement ?
Alors, toutes les œuvres que nous achetons, nous essayons de les restaurer, en tout cas pour les tableaux, et nous les restaurons donc grâce à un partenaire très important qui est le C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Donc Catherine Duchemin, en ce moment, est au C2RMF, raison pour laquelle vous ne pouvez pas la voir immédiatement au château, et on attend notamment avec impatience ce qu'on appelle son dossier d'imagerie scientifique. Donc l'imagerie scientifique, c'est les radiographies, c'est les photos sous infrarouge, sous ultraviolet, donc qu'on peut faire aux œuvres, et qui permettent de voir finalement ce qui se cache sous la peinture. Et on attend donc avec impatience d'avoir ces résultats, parce qu'on sait déjà que voilà, le tableau a connu une histoire tout à fait passionnante et un peu mouvementée. On sait qu'il a appartenu au milieu du 19e siècle à quelqu'un qui a été restaurateur, qui s'appelait Eugène Ferral-Cussac. Donc il est très tentant de penser que voilà, il l'a un peu repeint. Et sur des photos anciennes, on voit qu'il y a des différences avec l'œuvre que nous avons aujourd'hui sous les yeux, notamment au niveau du drapé jaune qui avait donc une forme tout à fait différente. Donc notre question est de savoir si voilà, la photo ancienne représente un état un peu repeint par Ferral-Cussac, ou si c'est notre état qui est un peu repeint. Donc vraiment, ces analyses vont nous permettre d'avoir de mieux connaître l'histoire de l'œuvre. Et puis surtout, ça va révéler le tableau, c'est-à-dire que là, on a un tableau qui est un peu emprisonné, entre guillemets, par un vernis un peu jauni, un peu opaque. Et donc ça va permettre bien sûr de le révéler, de le mettre davantage en valeur, notamment donc ce corsage blanc avec des rubans noirs qui va être absolument magnifique. Donc vraiment, la restauration s'annonce très très prometteuse et permettra donc de mettre encore plus le tableau en valeur.
Est-ce que dans le milieu des historiens de l'art, cette acquisition a suscité l'intérêt et peut-être pourra générer de nouveaux travaux ou des travaux sur Catherine Duchemin ?
Donc cette acquisition, évidemment, elle va être accompagnée, comme souvent, la publication d'un article, etc. C'est bien sûr aussi quelque chose qu'on va mettre en avant. On va raconter l'histoire, la belle histoire de Catherine Duchemin. Toutes les acquisitions, ensuite, effectivement, sont étudiées et en tout cas intéressent généralement les autres historiens de l'art. Ce qui est intéressant pour ce tableau, c'est qu'effectivement, il a finalement un succès qui est tout à fait peut-être auquel on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que, voilà, bon, votre invitation, par exemple, en est la preuve, mais c'est vrai qu'on remarque qu'il est beaucoup sorti sur les réseaux sociaux. C'est aussi un tableau, par exemple, qui se répand sur Wikipédia. Et j'ai découvert avec beaucoup d'amusement que Catherine Duchemin avait une page en arabe égyptien, en suédois, et le tableau a été très vite inséré dans la page sur l'histoire de l'Académie royale, dans la page sur les arts dans les années 1660. Enfin, voilà, c'est un tableau qui plaît, et on espère, donc, une fois encore, qu'il servira donc de porte d'entrée pour mettre en valeur l'histoire de l'Académie royale.
Est-ce qu'on a une possibilité, ou cela vous semble trop compliqué, un jour d'attribuer plus d'œuvres à Catherine Duchemin ?
Alors, il y a déjà des spécialistes de peintres de fleurs qui ont proposé donc, d'attribuer des tableaux à Catherine Duchemin, je pense notamment à Claudia Salvi. La peinture de fleurs, c'est redoutablement difficile. Moi, je suis spécialiste du portrait, c'est déjà considéré comme difficile, mais la peinture de fleurs, vraiment, c'est le cran au-dessus. On peut espérer, bien sûr, qu'on finira par lui donner d'autres œuvres, notamment donc, par comparaison peut-être avec le bouquet qui est peint sur le tableau. Ça reste, voilà, ça, le XVIIe siècle, il s'éloigne un peu plus tous les jours. Donc nous, les historiens de l'art, nous essayons voilà, de reconstituer ce qui a été. Ça reste très difficile. Parfois, il suffit de pas grand-chose. C'est-à-dire que voilà, peut-être que si on retrouve trois tableaux signés de Catherine Duchemin, on réussira à reconstituer tout un corpus. Mais en tout cas, à cette heure-ci, ça reste assez difficile. Et les œuvres donc, qui lui avaient été attribuées notamment donc un tableau lui avait été attribué à Troyes, Girardon et Troyens, donc forcément ça leur plaisait. Il a été rendu à un artiste napolitain du 18e qui n'avait absolument rien à voir. Il y a un tableau aussi à Chambéry dont je me méfie un peu parce qu'on voit des, c'est un très beau tableau, mais on y voit donc des fleurs et surtout des fruits en fait. Il y a notamment des pêches et des raisins, et puis une rose qui est très belle mais qui me paraît un peu plus tardive. Donc on peut espérer effectivement que l'acquisition permettra de donner d'autres tableaux à Catherine Duchemin. Pour l'instant ça reste difficile. Peut-être qu'on retrouvera son morceau de réception qui se cache dans les réserves d'un musée quelque part, mais là encore voilà, dans les archives il faut bien comprendre que les descriptions qu'on a de ces tableaux, c'est tableaux de fleurs, point. Donc c'est aussi pour ça que c'est évidemment très très compliqué.
Est-ce que pour finir il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et que nous n'avons pas abordé?
Je suis très attachée vraiment aux salles Louis XIV, donc qui sont ces salles dans lesquelles vont être exposées, dans lesquelles va être exposé le portrait de Catherine Duchemin, qui sont ces salles donc qui précèdent la visite des grands appartements pour le public. Et pour moi vraiment, je ne suis pas seulement attachée à cet endroit parce que je suis le conservateur de ses œuvres, mais aussi vraiment voilà, c'est pour moi une introduction et une préparation à la visite. Et finalement, les gens voient cette collection de portraits, qui est la collection de portraits du château de Versailles, qui n'a pas d'équivalent hein, dans le monde, soyons tout à fait clairs. C'est une collection qui est fondée grâce aux héritages des saisies révolutionnaires, donc des œuvres qui viennent des collections royales, qui viennent de l'Académie, ce qui est un ensemble donc vraiment conséquent et pas des moindres, des achats de Louis-Philippe. Donc aucun autre endroit au monde ne présente autant de portraits du XVIIe. Et finalement, voilà, les gens voient ces centaines de portraits avant de rentrer dans les salles qui sont vides, hein, bien sûr, puisque les courtisans ne sont plus là. Et donc, j'espère que ces œuvres permettent donc de mettre les visiteurs en bouche avant de visiter les salles et quelque part d'incarner, de donner chair à ce que les gens vont voir ensuite en découvrant les décors, les marbres, les plafonds peints. Et donc, je vous encourage à venir voir les salles Louis XIV du château de Versailles.
Eh bien, un grand merci, Élodie Vesse. Donc, vous nous invitez à nous rendre à Versailles dans quelques mois pour contempler ce portrait de Catherine Duchemin qui vient de rejoindre les collections du château de Versailles. Un grand merci et à bientôt.
Merci.
Merci.